Wilkie Collins, Mad Moncton. Chapitre 3. Le concierge m'ouvrit la porte de la maison qu'habitait Moncton et m'indiqua l'étage où son appartement était situé. Je suppose que celui-ci entendit mes pas, car il me salua de mon nom avant que j'eusse mis le pied sur le seuil de la pièce. En entrant, je le trouvai assis près d'une table. Il avait à la main quelques lettres détachées dont il était en train de faire un paquet. Je remarquai que lorsqu'il me demanda de m'asseoir, l'expression de sa physionomie était tout à fait tranquille, bien que son visage fût devenu très pâle. Il me remercia d'être venu, répéta qu'il avait à me dire quelque chose de fort essentiel, et ensuite s'arrêta court, un peu embarrassé, me semblait-il, de continuer son allocution. J'essayai de le mettre à l'aise, l'assurant que si mon secours ou mes conseils pouvaient lui être de quelque utilité, je mettais mes loisirs et moi tout à fait à sa disposition. Tandis que je parlais ainsi, je vis ses yeux se détourner peu à peu de mon visage, s'en détourner lentement et pour ainsi dire pouce à pouce, jusqu'au moment où ils s'arrêtèrent sur un objet quelconque, avec le même regard fixe et perdu dans le vague, qui m'avait si souvent effarouché en maintes et maintes occasions. L'ensemble de sa physionomie s'altéra plus profondément que je ne l'avais vu s'altérer encore, et dans le fauteuil où il demeurait assis en face de moi, il avait l'air d'un homme qui se débat avec l'agonie. « Vous êtes bien bon, » disait-il d'une voix faible, et s'adressant avec lenteur, non pas à moi directement, mais du côté où ses yeux restaient encore fixés, « Je sais que vous pouvez m'assister, mais... » Il se tut. Son visage blêmit horriblement et se couvrit d'une abondante sueur. Faisant effort pour continuer, il articula une ou deux paroles encore, mais cessa bientôt d'ouvrir la bouche. Sérieusement inquiet de lui, je me levai de mon fauteuil pour lui porter un verre d'eau puisé dans un vase que j'avais vu sur une table volante. À la même minute, il se leva brusquement. Tous les soupçons que j'avais entendu émettre à voix basse sur l'instabilité de son état mental me revinrent à la fois dans l'esprit, rapide comme l'éclair, et je reculai d'un ou deux pas par un mouvement involontaire. « Arrêtez, » dit-il, se rasseyant, « ne vous occupez pas de moi et ne quittez pas votre fauteuil. Je veux, ou je désire, si vous l'aimez mieux, modifier ici quelque chose avant que notre entrevue continue. » Une lumière un peu vive blesse-t-elle vos yeux? Pas le moins du monde. Jusqu'alors, j'étais assis par-delà le rayon lumineux de la lampe de cabinet qui seul éclairait la chambre. Après ma réponse, il se leva de nouveau et, passant dans une pièce à côté, en rapporta presque aussitôt une lampe de fort calibre. Il prit ensuite deux flambeaux sur la table volante, deux autres sur la cheminée et les rangeant l'un près de l'autre à ma grande surprise. De manière à les placer exactement entre nous deux, il essaya de les allumer. Sa main tremblait si fort qu'il fut obligé d'y renoncer et de permettre que je lui vinsse en aide. Sur sa demande, j'enlevai le capuchon de la lampe de cabinet quand l'autre lampe et les quatre bougies furent allumées. Assis de nouveau en face l'un de l'autre, et lorsque ce puissant rideau de lumière fut établi entre nous, je le vis reprendre peu à peu son sang-froid et sa douceur habituelle. Les paroles qu'il m'adressa dès lors furent prononcées sans la plus légère hésitation. « Je n'ai pas à vous demander, me dit-il, si vous avez connaissance des bruits répandus partout à mon sujet. Je sais de reste qu'il en est ainsi. Je voudrais ce soir vous donner quelques motifs raisonnables pour vous expliquer la conduite à laquelle tous ces bruits doivent leur origine. Mon secret jusqu'à présent n'a été connu que d'une seule personne. Il deviendra vôtre désormais. » Et ma confiance en vous a un objet spécial que la suite de mes paroles vous fera connaître. Il faut pourtant avant tout que vous sachiez exactement ce qui me retient encore loin de l'Angleterre. J'ai besoin de vos avis, de votre aide. Et pour ne rien vous dissimuler, je voudrais aussi mettre à l'épreuve cette indulgence, cette sympathie amicale que vous m'avez témoignée, avant de me hasarder à verser dans votre cœur mon déplorable secret. Me pardonnerez-vous cette apparence méfiante que rencontra chez moi votre caractère ouvert et franc, cette apparente ingratitude pour des bontés qui remontent au début même de nos mutuelles relations? Je le suppliais de laisser là ses souvenirs effacés et de continuer sans autre préliminaire. « Vous savez, reprit-il, que l'objet de mon voyage ici est de retrouver le corps de mon oncle Stephen et de le ramener à Wincot Abbey, où sa place est marquée dans notre sépulture de famille. » Vous devez savoir aussi que je ne suis pas encore parvenu à découvrir ses restes. Efforcez-vous d'oublier, pour le moment, ce qui peut vous sembler extraordinaire et difficile à comprendre dans un projet comme le mien, et veuillez parcourir cet article de journal que j'ai encadré d'un trait à la plume. Jusqu'à présent, c'est le seul témoignage qu'on ait pu se procurer au sujet de la fatale rencontre où mon oncle a succombé. Je voudrais donc savoir quelle marche vous serez porté à me suggérer après l'avoir lu. Il me passait en parlant ainsi un vieux journal en langue française. La substance de ce que j'y lus est si nettement gravée dans ma mémoire que je me sens en état de reproduire correctement, si lointain que soit ce souvenir, tous les faits avec lesquels il importe de familiariser mes lecteurs. L'article commençait par des remarques du rédacteur sur la vive curiosité qui s'était manifestée à cette époque au sujet du funeste duel survenu entre le comte de Saint-Lô et M. Stephen Monckton, gentleman anglais. Il insistait ensuite assez longuement sur le mystère tout à fait exceptionnel qui avait d'un bout à l'autre enveloppé cette affaire, et manifestait l'espoir que la publication de certains comptes rendus manuscrits, auxquels les observations du lecteur servaient en quelque sorte de préface, pourrait faire éclore de nouveaux témoignages et conduire à des renseignements plus précis. Le manuscrit provenait des papiers de M. Foulon, le témoin de M. Monckton, décédé à Paris en fort peu de temps, quelques semaines après son retour dans cette ville où il s'était rendu en quittant le lieu du duel. Du reste, le document en question était encore incomplet, et le récit demeurait suspendu au moment où le lecteur devait le plus désirer qu'il continuât. On avait pu découvrir pourquoi il en était ainsi, et les recherches les plus assidues parmi les papiers laissés par le défunt n'avaient mis au jour aucun autre écrit du même genre, portant sur ce sujet d'une actualité si récente, d'un intérêt si palpitant. Suivez le texte du document lui-même. C'était un accord secrètement rédigé entre le témoin de M. Monckton, M. Foulon, et M. Dalville, qui jouait le même rôle auprès du comte de Saint-Lô. Il énonçait tous les arrangements conclus pour le duel encore en projet. Cette espèce de programme portait la date de Naples 22 février, et il était divisé en 7 ou 8 clauses autant que je m'en souviens. La première constatait l'origine et la nature du différend, récrimination misérable des deux parts et qui ne mérite ni un souvenir ni une mention quelconque. L'article 2 établissait que la partie provoquée avait d'un côté choisi le pistolet, tandis que l'agresseur, qui tirait l'épée à merveille, insistait pour sa part afin que le duel fût réglé, de manière à rendre le premier feu décisif. Les seconds, voyant qu'il s'agissait d'une affaire à mort, avaient expressément décidé que le duel convenu resterait un profond secret pour tout le monde, et que l'endroit choisi pour se battre ne serait d'avance révélé à personne, non pas même aux parties directement intéressées. On ajoutait que ces précautions, en apparence excessives, étaient devenues absolument indispensables par suite d'une récente communication diplomatique adressée par le pape à tous les gouvernements italiens, et où sa sainteté, après s'être élevée contre la scandaleuse fréquence des combats singuliers, avait manifesté le désir très vif que les lois rendues contre les duellistes fussent à l'avenir exécutées le plus rigoureusement possible. La troisième clause portait le détail des arrangements pris pour le duel. Les pistolets une fois chargés sur le terrain même et de la main des témoins, les combattants seraient placés à 30 pas l'un de l'autre et tireraient au sort le premier feu. Le gagnant ferait alors 10 pas pour arriver à une ligne marquée d'avance et une fois là déchargerait son pistolet. si son adversaire n'était pas atteint, et atteint de manière à se trouver hors de combat, ce dernier pourrait avancer à volonté, fût-ce des 20 pas restants, afin de faire feu à son tour. De cette façon, le duel ne pouvait manquer d'avoir, aux deux premiers coups, une issue décisive, et les deux parties principales, aussi bien que leurs témoins, s'engager formellement à n'y pas donner d'autre suite. D'après le quatrième article, les témoins étaient tombés d'accord que le duel aurait lieu hors des États napolitains, se réservant d'ailleurs de s'abandonner aux circonstances pour le choix de la localité où la rencontre définitive serait indiquée. Les autres paragraphes, pour autant que je me les rappelle, étaient consacrés à énumérer minutieusement les précautions qu'il fallait prendre afin d'éluder toute découverte. Les duellistes et leurs témoins quitteraient Naples séparément, ils changeraient plusieurs fois de voiture, ils se rencontreraient dans une certaine ville, ou bien, faute de se faire, à un certain relais de poste, sur la grande route de Naples à Rome. Ils auraient avec eux des albums, des boîtes à couleurs, des tabourets pliants, pour se donner l'air d'artistes en voyage. Enfin, ils arriveraient à pied sur le terrain du duel, et, crainte de trahison, ne prendraient pas de guide. Ces combinaisons et quelques autres encore, destinées à faciliter la fuite des survivants après le dénouement de l'affaire, complétaient ce singulier document, que les deux témoins avaient signé, mais seulement de leurs initiales. Immédiatement après cette signature abrégée, commençait un récit daté de Paris, et qui avait évidemment pour but de raconter le duel avec ses plus menus incidents. L'écriture était celle du témoin décédé. Monsieur Foulon, le personnage dont il s'agit, était fermement convaincu, disait-il, que telle ou telle circonstance venant à transpirer pourrait donner une sérieuse importance au témoignage personnel d'un de ceux qui avaient assisté au duel de messieurs de Saint-Lô et Moncton. Il voulait donc, en sa qualité de témoin, établir que le combat avait eu lieu très exactement selon les conventions arrêtées, les deux champions s'étant comportés en hommes d'honneur et de sentiments chevaleresques. Il déclarait, de plus, que pour ne compromettre personne, il déposerait en main sûre sa déclaration manuscrite, avec ordre de ne l'ouvrir que dans un cas de nécessité tout à fait urgente. Après ce préambule, M. Foulon racontait que le duel avait eu lieu, deux jours après la rédaction déjà indiquée, dans un endroit où le hasard seul avait conduit les combattants. Il ne donnait ni le nom de cet endroit, ni celui des pays environnants. Les champions, placés ainsi qu'il avait été convenu d'avance, et le sort ayant assigné au comte de Saint-Lô le bénéfice du premier feu, il avait fait ses 10 pas et frappé son adversaire en plein corps. M. Moncton n'était pas immédiatement tombé, mais après 5 ou 6 pas faits en chancelant, on l'avait vu lâcher son coup sans atteindre le comte et s'abattre ensuite sur le sol à l'état de cadavre. M. Foulon ajoutait que, déchirant une feuille de son agenda, il y avait écrit en quelques mots le récit de cette mort tragique, et qu'il avait ensuite fixé au milieu d'une épingle, après l'habit du défunt, le papier en question, précaution nécessaire en raison du plan spécial qui venait d'être arrêté sur place, afin de se débarrasser du mort sans trop de risques pour les survivants. En quoi consistait ce plan, ce qu'on avait fait du cadavre, tout ceci restait dans l'ombre, car à ce point essentiel du récit, il se trouvait brusquement interrompu. Une note insérée au bas de la colonne du journal se bornait à indiquer par quelle série d'incidents on avait pu livrer au public cette pièce de nature essentiellement privée, et à répéter ce qui avait été dit précédemment, à savoir que les personnes chargées des papiers de M. Foulon n'avaient rien trouvé de plus à ce sujet. J'ai maintenant donné toute la substance de ce que je lus dans le journal en question, et mentionné dès lors tout ce qu'on savait à cette époque sur la fin tragique de M. Stephen Moncton. Lorsque je replaçai le journal dans les mains d'Alfred, il était trop agité pour prendre la parole, mais un signe de lui me rappela qu'il attendait avec anxiété ce que j'avais à lui dire. Ma position était à la fois très embarrassante et très pénible. Je me demandais à quelles graves conséquences pourrait nous mener la moindre négligence de ma part, et je ne vis tout d'abord rien de plus sûr que d'interroger avec soin mon interlocuteur, avant de me hasarder dans un sens ou dans l'autre. Me permettez-vous, lui dis-je, de vous adresser une ou deux questions avant de vous donner mon avis ?
Certes, certes, répondit-il avec un geste d'impatience. Toutes les questions qu'il vous plaira.
Avez-vous, à aucune époque de votre vie, entretenu avec votre oncle des relations très fréquentes ?
Je ne l'ai jamais vu que deux fois en tout, et cela pendant ma première enfance.
Il ne se peut donc pas que vous eussiez pour lui des sentiments très particuliers.
Des sentiments pour lui ? J'aurais eu honte de ce qu'il aurait pu m'inspirer.
Partout où il a traîné son existence errante, il déshonorait le nom que nous portons.
Puis-je savoir si quelque raison de famille est le mobile qui vous fait ainsi désirer de ravoir ses restes ?
Des motifs comme ceux que vous indiquez peuvent compter, effectivement, parmi ceux qui dirigent ma conduite.
Mais pourquoi me demandez-vous cela ?
Parce que, sachant que vous avez eu recours à la police pour vous aider dans vos recherches, je désirais savoir également si vous avez stimulé le zèle de ces agents supérieurs en leur indiquant des raisons personnelles qui vous ont déterminé à des recherches aussi extraordinaires.
Je n'ai donné aucune raison. Je paie le travail que je commande, et ma libéralité ne m'a valu jusqu'ici, de la part de tous ces infâmes drôles, qu'une indifférence, une insouciance complète.
Étranger à ce pays, dont la langue même m'est à peine connue, je ne tire aucune ressource de mon propre fonds. Les autorités, soit à Rome, soit ici, font mine de m'assister et semblent conduire leurs enquêtes dans le sens où je désire qu'on les dirige, mais je ne puis rien obtenir de plus. On m'outrage, on se moque de moi presque ouvertement.
Ne regardez-vous pas comme possible, et prenez bien garde qu'ici je ne veux ni excuser la conduite des autorités, ni m'associer le moins du monde à l'opinion que je vais émettre, mais ne regardez-vous pas comme possible que la police mette en doute le sérieux de vos intentions.
« Comment, mes intentions ne seraient pas sérieuses ? » s'écria-t-il soudainement redressé, avec un regard farouche et une respiration de plus en plus rapide.
« Tout ceci serait donc un badinage ? Et vous aussi, vous ne me prenez pas au sérieux ? » ?»«
Je le sais, bien que vous me disiez le contraire. Eh bien donc, attendez. Avant qu'une seule parole de plus soit échangée entre nous, vous aurez vu de vos yeux ce qui en est. »
« Venez par ici, une minute seulement.
Rien qu'une minute. »
Je le suivis dans sa chambre à coucher, laquelle ouvrait sur le salon. Tout à côté de son lit était une grande caisse de bois ordinaire, haute de plus de 7 pieds.
« Tirez à vous le couvercle, et regardez, me dit-il, pendant que je vous éclaire avec cette bougie. »
J'obéis à ses indications, et constatai, non sans surprise, que cette caisse d'emballage renfermait un cercueil de plomb, magnifiquement armorié à l'écusson de la famille Monckton, sur lequel était inscrit, en caractère gothique avec le nom de Stephen Monckton, l'âge auquel il avait péri et les circonstances principales de son trépas.
« Je garde ce cercueil tout prêt à le recevoir, » murmurait Alfred, penché à mon oreille.
« Croyez-vous maintenant que tout ceci est sérieux ?»
Je n'y voyais pour mon compte qu'une nouvelle preuve de folie, et si bien que j'évitais de lui répondre.
« Bien, bien, je vois que vous êtes convaincu, » continua-t-il à mots pressés. « Nous pouvons retourner dans la pièce voisine, pour nous y épancher à cœur ouvert. »
Quand nous reprîmes nos places, j'écartai machinalement mon siège de la table où il s'accoudait. J'étais en ce moment si troublé, je savais si peu ce que j'avais de mieux à dire ou à faire, que je ne songeais pas à garder la position qu'il m'avait assignée en allumant les flambeaux.
À l'instant même, il m'en avertit. « Ne vous reculez pas !» disait-il avec un sérieux surprenant.
« Demeurez assis en pleine lumière. Faites cela pour moi, je vous en prie. Je vous expliquerai bientôt pourquoi j'y tiens tant. Mais au préalable, conseillez-moi. Venez en aide à ma détresse, à mes anxiétés. » « Souvenez-vous qu'à cet égard, j'ai votre promesse. »
Je fis effort pour rassembler mes idées, et ce ne fut pas en vain. Il était inutile avec lui de prendre l'affaire autrement qu'au grand sérieux, et il eût été mal de ne pas lui donner consciencieusement mes meilleurs avis.
« Vous savez, lui dis-je, que 2 jours après la conclusion de l'accord fait à Naples, le duel a eu lieu en dehors des frontières napolitaines. » Ce fait vous a sans aucun doute amené à conclure qu'il fallait limiter au territoire romain les recherches concernant la localité que nous voulons découvrir.
positivement. Ces recherches jusqu'à présent, si superficielles qu'elles puissent être d'ailleurs, ont eu lieu uniquement du côté que vous indiquez. Si j'en dois croire la police, ces agents se sont enquis de l'endroit où s'est passé le duel, tout le long de la grande route qui mène de Naples à Rome. Et c'est là qu'ils ont fait afficher la forte récompense promise en mon nom à qui le fera découvrir. Ils ont également mis en circulation, du moins à ce qu'ils prétendent, le signalement des duellistes et de leurs témoins. Un agent a été logé par eux au relais de poste et un autre dans la ville que l'accord mentionne comme ayant servi de rendez-vous. Enfin, en se mettant en correspondance avec les autorités étrangères, on a essayé, me dit-on, de connaître l'endroit, ou les endroits, qui servirent de refuge au comte de Saint-Lô et à M. Dalville. Tous ces efforts, en admettant que réellement ils aient été faits, n'ont jusqu'à présent abouti à aucun résultat. « Il me semble, lui dis-je après un moment de réflexion, que toutes les informations prises le long de la grande route, ou dans n'importe quels environs de Rome, doivent, selon toute probabilité, ne rien produire. Quant à la découverte des restes de votre oncle, elle doit suivre, selon moi, celle de l'endroit où il a reçu le coup mortel. En effet, les personnes impliquées dans le duel n'auraient certainement pas risqué de se faire prendre en emmenant un cadavre avec elles, alors qu'elles cherchaient à dérober le secret de leur fuite. Il suffira donc de découvrir le lieu du combat. Maintenant, réfléchissons quelque peu. Les duellistes et leurs complices changeaient à chaque instant de voiture. Ils voyageaient séparément, deux à deux. Nul doute qu'ils ne prissent des chemins de traverse. Ils se sont arrêtés au relais d'abord, puis à la ville, afin de dépister les poursuites, et peut-être ont-ils fait une grande partie du chemin à pied et sans guide. Soyez certains que de telles précautions, employées par eux, nous le savons de science certaine, ont dû leur laisser sur ces deux journées un bien petit nombre d'heures, en supposant même qu'ils se levassent avec l'aurore et marchassent la journée entière pour gagner pays en ligne directe. Je crois donc que le duel a eu lieu dans le voisinage de la frontière napolitaine. Et si j'eusse accepté de la police la mission de conduire l'enquête, je l'aurais dirigée parallèlement à la frontière, explorant le pays de l'ouest à l'est, jusqu'à ce que je fusse parvenu aux sites les plus déserts que puissent fournir ces localités montagneuses. C'est là mon idée. Pensez-vous qu'on en puisse tirer parti ? Son visage à l'instant même se couvrit d'une vive rougeur. « Voilà, s'écria-t-il, une inspiration. L'exécution de votre plan ne doit pas souffrir un jour de retard. Il ne saurait être question de se fier à la police. Je partirai donc moi-même dès demain matin. Et vous ?» Il s'interrompit. Une pâleur soudaine envahit son visage. Il se prit à soupirer profondément. Ses yeux eurent encore leur regard fixe et perdu dans l'espace. Ses traits, enfin, décontractés et rigides, reprirent leur aspect cadavéreux. « Il faut, reprit-il d'une voix faible, que je vous révèle mon secret avant que nous causions de nos projets pour demain. Si j'hésitais plus longtemps à vous faire ma confession complète, je serais indigne de vos bontés passées, indigne du secours que j'attends de vous et que vous m'accorderez volontiers, j'espère, quand vous serez au courant de tout ce qui me concerne. » Je le priai d'attendre qu'il fût un peu remis et mieux en état de poursuivre l'entretien, mais il parut ne prêter aucune attention à mes paroles, luttant en apparence contre lui-même. Il se détourna lentement de moi et, s'accoudant à la table, appuya sa tête sur sa main. Le paquet de lettres dont je l'avais vu se préoccuper à mon entrée était justement placé sous ses yeux. Il le regardait fixement lorsqu'il m'adressa de nouveau la parole.